Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Chères toutes et chers tous, je vous espère en bonne forme. Cela fera bientôt un mois que je n'ai pas enregistré d'épisode sur le podcast. Alors voilà, la longue période des vacances s'achève. Alors nous sommes partis en fait 2 semaines et cette période ensuite s'est poursuivie pour moi avec quelques jours à Reims où l'un de nos enfants s'installe pour ses études supérieures. Et en fait, donc, je n'ai pas enregistré d'épisode, je crois, maintenant, depuis le 8 août. Alors, je pense, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 septembre. Alors, il est très tôt, hein, il est 5 heures du matin. Je me suis réveillée et j'ai eu envie d'enregistrer mon épisode. J'ai jeté quelques mots sur un papier. Le ciel est encore piqué d'étoiles, puisque maintenant, le soleil se lève. Alors qu'il est déjà 7 heures bien sonnées, le ciel est magnifique, les chats ne sont pas encore rentrés, et en fait je pense donc à tous les parents, à tous les enfants qui vont vivre une première rentrée ou une nouvelle rentrée. Alors je pense particulièrement aux parents qui vont voir leur enfant rentrer en première année de maternelle. Je pense bien sûr aussi aux enfants qui vont rentrer en CP. Je pense encore aux enfants qui vont rentrer en 6e et à ceux qui vont rejoindre le lycée. Alors ce sont à chaque fois des étapes importantes pour eux, comme pour nous les parents. Et j'ai revisité récemment toutes ces étapes, puisque nous sommes des parents maintenant d'enfants grands. Hein. Notre fille est née rentre en 2e année d'école d'infirmière. Notre fille cadette donc commence ses études supérieures et nous n'avons plus qu'un enfant dans le petit nid qui lui va rentrer en première. Donc notre maison se vide. Alors ce sont des étapes qu'il est nécessaire de préparer en amont pour pouvoir les vivre le mieux possible. Ce n'est pas rien d'avoir vécu dans une maison toujours très largement ouverte, une maison qui a accueilli avec joie, bon déjà c'est toute la famille, et puis aussi tous les amis plutôt de nos enfants, pour des soirées pyjama, pour des anniversaires, pour des mercredis après-midi, des week-ends à rallonge, des vacances. Alors, mardi, puisque pour nous ce sera mardi, nous n'aurons qu'un enfant qui montera dans un bus pour rejoindre le lycée. Alors, il y a des rentrées qui sont particulièrement importantes. Hein. Bien sûr, les rentrées que je viens d'évoquer, puisqu'elles sont, pour les parents, des moments pas toujours évidents à vivre. Hein. Il faut être capable de voir son enfant voler vers quelque chose de neuf. Ça fait partie de sa construction, c'est ce qui lui permet de gagner en indépendance et un jour de pouvoir prendre son envol. Alors notre fille cadette, on a toujours su qu'elle était d'un naturel très très indépendant. Et en fait, voilà, elle est partie. Elle est bien, elle est sur ses rails, elle donne peu de nouvelles. Quand je l'ai quittée un jeudi matin avant de reprendre le train, elle m'a dit au revoir sans effusion, elle est partie sur son vélo. Et voilà, moi je suis restée un peu les bras ballants. Bon, je m'y étais préparée, je savais que ce serait comme ça. Mais voilà, c'est quand même un moment particulier que l'on vit. Alors, s'agissant de la rentrée, j'espère qu'elle se passera donc le mieux possible pour chacun et chacune. J'ai pensé aussi, bien sûr, aux professeurs, à tous les membres de l'éducation nationale qui, eux, rentrent un petit peu plus tôt. Et je leur souhaite aussi de vivre une année positive, J'espère qu'au lycée, on sera moins bousculé par la réforme Blanquer, qu'on va trouver des aménagements, que nos enfants vont commencer aussi à voir s'effacer le spectre du Covid qui les a tellement fait souffrir, surtout ceux qui vivaient en ville enfermés. Alors, puisqu'il s'agit de rentrer, je voudrais quand même vous raconter un peu, non pas toutes nos vacances, mais au moins 4 jours pleins de ces vacances. Le parc du Mercantour me faisait rêver depuis très très longtemps. Alors j'ai eu la chance, depuis que je suis étudiante, de marcher dans le parc de la Vanoise, qui a d'ailleurs été le premier parc national qui s'est ouvert en France. En 1963, il y a eu la même année le parc marin de Port-Cros. Donc c'est la première réserve marine d'Europe, un lieu absolument incroyable. Quand on y va, on voit des poissons partout. Enfin, c'est vraiment étonnant cet endroit. J'ai eu l'occasion de marcher autour du Mont-Blanc, de marcher dans les Cévennes, de marcher dans le Massif central, et bien sûr aussi de marcher dans des parcs magnifiques, notamment au Chili, au Canada, enfin dans différents endroits. Mais le Mercantour, mais le Mercantour me faisait vraiment rêver. Et cette année, enfin, nous avons été y marcher. Alors, nous avons marché 4 jours. Au début, nous devions marcher 5 jours, et puis notre fille cadette nous a un peu bousculé dans nos projets, si bien qu'en une journée, nous avons accompli ce qu'il était prévu de faire en 2 jours. Nous avions de gros sacs à dos que nous avons depuis que nous avons voyagé pendant 13 mois l'année 2001. Et en fait, nous avions ces gros sacs à dos bien chargés puisque nous préférions planter la tente plutôt que de dormir dans les refuges, dans des dortoirs. Et la seule chose que nous n'avions pas emporté, c'était de quoi nous préparer nos repas. Donc nous avions réservé pour dîner dans les refuges et aussi y prendre nos petits déjeuners. Et les refuges nous préparaient un casse-croûte pour le déjeuner. Alors nous sommes partis d'un endroit qui s'appelle le pont du Pontet. Et nous avons attaqué droit en direction du refuge des Merveilles. Du refuge des Merveilles, nous sommes ensuite partis au refuge de Fontanalbe. Du refuge de Fontanalbe, nous avons marché jusqu'au refuge de Nice pour enfin retrouver notre point de départ. Alors, ça a été vraiment une marche fabuleuse. Le parc du Mercantour est magnifique. Alors, c'est très minéral, même si encore assez haut. On trouve des sapins et d'ailleurs assez vite dans la montée, on a commencé à marcher, on était déjà à 1600 mètres d'altitude. Très vite, on a eu la surprise de voir des chamois. Un peu plus haut, on a rencontré des bouquetins. On a vu aussi de nombreuses marmottes qui se prélassaient sur des rochers au soleil. C'est un parc où il peut être intéressant de s'offrir les services de guide qui emmènent les marcheurs découvrir toutes ces gravures rupestres qui ont 5000 ans et qui représentent ce qui occupait les habitants de cette époque, qui étaient déjà des agriculteurs et des pasteurs. Donc en fait, il y a des représentations d'armes, d'animaux, il y a des dessins qui sont en lien avec leurs croyances, l'idée qu'ils se faisaient du ciel. Et en fait, c'est bien d'avoir un guide parce que sans guide, on a du mal à trouver les gravures. Le parc contient de nombreux lacs. Alors certains étaient malheureusement à sec. Ça, c'est l'effet de la chaleur qui frappe de plus en plus la France. Et heureusement, il y a encore beaucoup de lacs qui, eux, étaient bien fournis en eau. Et d'ailleurs, ça permet aux animaux de venir y boire. Ce qui est merveilleux dans ce parc, c'est que vraiment, on marche au milieu des animaux sauvages. Il n'y a pas de chasse. dans le Mercantour. Et quand vous arrivez au sommet d'un col très exigeant, mais vraiment très difficile, où vous avez été chercher loin, l'énergie de mettre un pas devant l'autre, que les sacs vraiment tirent sur les épaules, finissent même par faire des bleus sur les hanches. Et qu'en arrivant, vous voyez un bouquetin majestueux qui vous observe comme s'il était là pour, pour vous dire « Allez, bravo, super, vous l'avez fait ». C'est absolument unique. Et là, ça mérite tous les efforts qu'on vient d'accomplir. Les refuges sont très agréables. Alors, j'ai particulièrement aimé le refuge des Merveilles. Il y a une ambiance très sympathique, le personnel est charmant, on dîne très bien. On a, le soir où nous y avons dîné, c'était un repas assez asiatique. On discute facilement avec les gens qui sont assis à la même table. Alors les questions sont toujours les mêmes. Quel a été votre état? Vous irez où demain? Combien de jours marchez-vous? Chacun échange ses conseils, parle de ce qu'il a vu. Alors il est aussi beaucoup question, bien sûr, des animaux. Et alors ce qui est rigolo, en revanche, le matin, c'est de voir la tête des gens qui ont dormi dans les dortoirs collectifs. Et alors clairement, on le voit, hein, les nuits dans les dortoirs, quand ce sont des grands dortoirs, ne sont pas des nuits très agréables. Parce qu'il y a bien sûr les ronfleurs, il y a ceux qui vont et viennent, il y a ceux qui éblouissent les autres avec leur frontal, ceux qui n'arrivent pas à trouver le sommeil et se retournent sans cesse sur leur matelas, il y a les enfants qui pleurent, il peut y avoir des très jeunes enfants. Donc voilà, les nuits dans les dortoirs collectifs sont parfois compliquées. Et quand on doit marcher plusieurs heures et qu'on manque de sommeil, c'est pas toujours facile. Enfin, cette marche était fabuleuse, vraiment fabuleuse. Alors, on a fait ce qu'on ne doit pas faire, hein, mais on l'a fait brièvement. Et avant d'arriver au refuge de Nice, qui est vraiment un refuge très chouette, on s'est trempé dans un lac. Et c'était délicieux, même si là encore, l'eau du lac était bien trop chaude, hein, pour un lac de montagne. Je pense que l'eau... La température de l'eau avoisinait facilement les 16 ou 17 degrés. Mais voilà, on s'est trempé dans cette eau. On avait marché 10 heures. On était vraiment fatigués. Et ça faisait un bien fou. Alors, bien sûr, quand on fait ça, hein, il faut au maximum éviter la crème solaire. Il faut se rappeler qu'on peut perturber tout un écosystème, qui est fragile, hein, voilà, donc on n'était pas resté longtemps, on était seul. Et puis à un moment, j'ai entendu un bruit. Et en fait, il y avait un bouquetin qui nous observait. Voilà, donc c'était un moment de délassement total, mais dont nous avions conscience, hein, qu'il ne fallait pas le renouveler et que donc les lacs de montagne sont fragiles. Au-delà du fait que quand on a marché pendant de très longues heures, qu'il faisait très très chaud, il faut faire vraiment attention au risque d'hydrocution. Voilà, donc rentrer lentement, bien se mouiller la nuque. Donc ces journées ont été magnifiques. Si jamais cela peut vous intéresser, j'en ai fait une chronique que vous pouvez trouver sur mon blog Hors Cadre, qui a été durablement hébergé par le Courrier International. Maintenant, il est sur le site OVH. Voilà, donc vous pourrez lire plus en détail ce que nous avons fait pendant ces 4 jours. Alors le fait d'évoquer les animaux sauvages, la joie de les rencontrer, me ramène au plateau. Quand je suis rentrée, j'ai eu la joie de retrouver les chevreuils. Donc les chevreuils ont connu leur période de rute de la mi-juillet à la mi-août, donc elle est terminée maintenant. Le matin quand je me promenais, parfois le soir, j'entendais les mâles qui émettait un son très rauque, assez proche, hein, de celui des cerfs, hein, quand ils brament. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que la période de fécondation est très courte, hein, puisque les femelles, qu'on appelle les chevrettes, ne sont fécondables que de 24 heures à 48 heures. Donc, c'est une période vraiment brève. Hein, et voilà, s'il n'y a pas de rencontre, il y aura pas de. La femelle n'attendra pas de petits cette année-là. Et ensuite, ce qui est étonnant aussi, c'est que lorsque la fécondation a lieu, eh bien, les ovules qui s'implantent sont gelés, c'est-à-dire qu'ils ne se développeront pas avant le mois de décembre. Donc en fait, je ne sais pas si beaucoup d'animaux connaissent ça dans la nature, ce gel en fait du début, du développement en fait après l'ovulation, et donc vraiment ce départ effectif du développement de l'embryon à partir du mois de décembre. Alors j'ai cherché hein, pourquoi, j'ai pas trouvé. Alors j'essaierai d'approfondir mes recherches pour comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Et je contemple le plateau, je suis heureuse de me promener et je pense que bientôt voilà, la chasse va reprendre. Alors elle a déjà repris pour les sangliers qui sont chassés très très tôt. Sangliers dont je rappelle que si le cheptel a explosé en France, c'est parce qu'à partir des années 70, on les a nourris, pensant qu'en les nourrissant, ils iraient moins s'aventurer dans les champs de maïs. Ça n'a rien changé, si bien que maintenant, la plupart des champs sont électrifiés. Donc, les femelles sont arrivées à maturité sexuelle beaucoup plus tôt que par le passé. Elles se sont mises aussi à avoir non pas une, mais deux portées par an. Donc, tout ça, bien sûr, a engendré une explosion hein, du cheptel des sangliers, qui sont des animaux excessivement intelligents. Alors, j'en ai très rarement vu ici, alors qu'il y en a beaucoup. Il faudrait se mettre à l'affût la nuit. J'ai vu un matin, alors que j'emmenais mes enfants à l'école, une maman faire traverser la route à sa nombreuse famille. C'était très mignon. J'en ai entendu un matin très tôt en forêt, alors que nous nous promenions, mon mari et moi, avec Fantôme. Donc on avait bien tenu Fantôme pour pas qu'il se mette à courir après les sangliers. Mais sinon, en fait, je n'en ai pas vu, sauf un marcassin, malheureusement mort sur un chemin. Alors je regarde et j'écoute cette vie sauvage que je trouve fabuleuse. Et je pense à cette chasse qui va reprendre. Et cette année, nous irons une nouvelle fois nous mettre à l'affût pour écouter les cerfs bramer. Et donc je voulais, j'avais envie de partager avec vous le récit d'un brame que nous avons vécu avec mon mari. Et c'était il y a 2 ans. Et c'était un de mes rêves d'aller écouter le cerf bramer en forêt. Donc je vais vous lire la fin de cette chronique qui parle de ça. Depuis de très longues années, excusez-moi, je caressais un rêve, aller écouter le cerf bramer. Sur le plateau, le matin, de bonne heure, je contemple les chevreuils. Pendant notre tour du monde, nous avions été nager avec des otaries, ça c'est en Nouvelle-Zélande, et quand nous marchions au Canada, notamment en Alberta, il y avait parfois des marmottes qui venaient s'accrocher à nos chaussures de randonnée. La période du brame est courte et les conditions météorologiques pas toujours bonnes pour se mettre à l'affût. Comme on m'avait dit que les cerfs en route sont très dangereux, je m'étais renseignée pour que nous y allions avec un guide. En juin, je parlais à Paul, qui a été notre père pendant 4 ans et qui pratique en famille la chasse depuis l'enfance, de mon désir d'aller écouter le cerf bramer. Il me disait qu'il n'était pas nécessaire de se faire accompagner et m'envoyait le lieu précis où aller entendre le brame dans la forêt d'Orléans. La forêt d'Orléans, avec ses 50 km de superficie, est la plus grande forêt de France. Hier, nous nous garions, là où Paul nous l'avait indiqué, et marchions sur un chemin forestier, en direction d'un étang. Stéphane espérait que nous trouverions des champignons, mais hormis une veste de loup, nous n'avons rien trouvé au pied des chênes, entourés par de hautes fougères. Vers 18h30, nous étions à notre poste d'observation face à l'étang, assis sur un vieux poncho bleu troué et adossé à un tronc d'arbre. Steph avait installé son appareil photo sur un pied et fixé un micro. L'affût, cela me fascine. C'est pourquoi j'aime tant un photographe animalier comme Vincent Munier ou un homme comme Jean-Michel Bertrand qui se met sur la piste des loups depuis des années pour réaliser des documentaires magnifiques. C'est pourquoi le livre de Sylvain Tesson, qui retrace la quête menée par Vincent Munier et sa compagne pour photographier la panthère des neiges, m'attend plus. Des heures et des heures sans bouger, sans parler, à se fondre dans la roche, pour avoir un jour la chance de saisir un animal en voie de disparition. Hier, lentement, le soleil descend, les couleurs changent, des canards passent au-dessus de nous et des cygnes avancent avec grâce. Un premier son rauque monte de l'autre côté de la rive, suivi d'un deuxième, d'un troisième et bientôt d'un quatrième. Les cerfs semblent se répondre. Le son évoque par moments des rugissements ou des barrissements, des sons puissants qui semblent monter de la préhistoire et nous renvoient à notre fragilité d'homme face à la nature. Les oiseaux sont de plus en plus nombreux, les chauves-souris dansent, tandis que les grenouilles croassent et que le moustique se plaise à nous piquer. Le soleil a disparu et le brame est de plus en plus puissant. Il y a quelque chose de désespéré dans le brame. Nous ne verrons pas les animaux entrer dans l'eau, et je me réjouis que nous n'ayons pas entendu leur bois s'entrechoquer. L'humidité tombe, les clapotis de l'eau se font plus présents. Nous repartons à regret par un long sentier à travers la forêt. Des étoiles se sont allumées dans le ciel. L'appel des cerfs s'éloigne. Je pense au lion, la chanson de Brel. Dans le massif de l'Estérel, pendant longtemps, notre tante et notre oncle entendaient les cerfs bramer. Mon oncle m'a écrit qu'il y avait une harde de 80 bêtes dans le massif. Lui, qui y marche depuis maintenant au moins 50 ans, a trouvé une dizaine de bois qu'il a conservés dans sa cave. Tous les deux pouvaient voir et entendre le cerf bien en vue sur une plateforme. Depuis plusieurs années, plus de cerfs et rarement une biche. Il ne sait pas si c'est lié au braconnage ou à la chasse. Maintenant, ils ont les visites régulières d'une jeune renarde qui avait pris ses habitudes chez eux à l'automne dernier et allait même se coucher sur le canapé. C'est là la magie de vivre dans une maison en pleine nature et d'être capable de s'émerveiller devant les animaux et les plantes. J'ai adoré cette expérience de communion parfaite avec la nature. C'était merveilleux de n'être que deux. Avec un groupe, l'ambiance doit être différente. Le caractère intime est perdu. La prochaine fois, nous emporterons des jumelles, des sacs de couchage et un produit contre les moustiques. Quand on veut entendre le cerf bramer, il importe de ne pas porter de parfum, de ne pas avoir de vêtements faisant du bruit, de ne pas utiliser de lampe frontale, de ne pas faire du bruit et surtout de ne pas chercher à approcher les cerfs. J'ai fait une réaction allergique à la piqûre d'un tout petit moustique tigré. Mais ce n'est rien au regard du bonheur que j'ai éprouvé, du sentiment de plénitude qui m'a habité et que j'essaie de partager avec vous. Je suis pleine de reconnaissance à l'égard de Paul, car sans lui, je n'aurais pas vécu ces moments uniques. Ce soir, Paul ira, avec des amis, écouter le brame. S'il s'installe sur son tronc, il trouvera les coques de pistache que nous avons mangées hier. Voilà, c'est sur cette note que se terminait eh bien, cette chronique hein, que j'avais écrite et postée voici 2 ans à la fin du mois de septembre, que vous pouvez aussi trouver sur le blog. Et donc nous allons, l'année dernière, nous n'avons pas pu aller écouter le cerf bramer, soit parce que nous étions occupés, soit parce que le temps ne s'y prêtait pas. Et c'est vraiment merveilleux quand la nuit est très claire. Alors idéalement, bien sûr, il faudrait une nuit de pleine lune comme celle que nous avons eue il y a quelques jours, cette fameuse lune bleue, cette 13e lune de l'année. Et en fait, c'est vraiment extraordinaire. Alors ça m'amène, et je terminerai sur cette note, à vous dire qu'avant que nous partions, j'ai consacré un épisode au livre de Cédric Sapin de Four, Son odeur après la pluie, livre dans lequel il raconte cette vie en accéléré que l'on mène avec un chien, de sa naissance à sa mort. C'est donc 14 années, puisque Cédric Sapin de Four et sa femme Mathilde ont eu cette chance que leur bouvier bernois vive longtemps, très longtemps. Plus les chiens sont importants, imposants, et plus malheureusement leur espérance de vie est courte. Et d'ailleurs, quand nous marchions, nous avons vu des patous qui surveillaient les troupeaux, dont un magnifique patou, dont toute une partie, tout un flanc Les poils, tous ses poils avaient été arrachés parce qu'au mois de juin, il s'était battu avec un loup pour protéger le troupeau. Mais pour revenir au livre de Cédric Sapin de Four, il est en tête de toutes les sélections, tous les classements de livres. Ce livre a connu un succès extraordinaire. Je m'agace encore que des critiques littéraires s'en étonnent. Et le succès de ce livre me fait un plaisir immense. Et il m'amène à penser qu'il faudrait vraiment instaurer maintenant un permis pour que les futurs propriétaires, j'aime pas dire qu'on est propriétaire d'un animal, parce qu'un animal n'est pas un objet, il n'est pas une chose, mais que ceux qui envisagent de faire entrer un chien ou un chat, tout autre animal dans leur famille, sachent qu'il en deviendra un membre, qu'il n'est pas cette petite peluche qu'on met au pied du sapin le 24 décembre et qu'on abandonne quelques mois plus tard parce qu'on part en vacances, parce qu'on s'en est lassé, parce qu'il faut en prendre soin, parce qu'il faut le nourrir, parce qu'il faut le soigner, parce qu'il a besoin de nous, parce qu'il aime se promener, parce que si l'on ne fait pas attention à lui, parce que si on l'abandonne des heures entières dans un petit appartement ou un appartement tout court et même une maison, eh bien, il va faire des bêtises. Il va commencer à lacérer les fauteuils, à manger les chaussures. Et ça, c'est normal. C'est la réaction normale d'un animal qui n'est pas heureux. Alors, avant d'avoir un chien de grâce, il faut réfléchir longtemps. Il faut comprendre ce que cela signifie. Que ce sera un bonheur immense, mais qu'aucun bonheur ne connaît. Que tous les bonheurs ont des contreparties. Et est-ce vraiment une grande contrepartie, ce bonheur qui consiste à aller se promener tous les jours, par tous les temps, avec un animal merveilleux qui va nous accompagner, qui va illuminer nos jours, qui pourra être un compagnon pour des enfants, un frère, une sœur, un enfant. Voilà, donc il faut bien réfléchir. Et quand je songe que tous les ans, la France détient ce record mondial abominable d'abandon d'animaux, je trouve ça monstrueux. Et je pense aussi qu'il faudrait réfléchir à limiter considérablement le nombre d'élevages. Il y a beaucoup trop d'élevages en France, y compris des élevages illégaux. Il y a des animaux qui naissent dans des conditions abominables. Il y a de plus en plus aussi de vols d'animaux. Notre voisine que j'aimais tant, Muguette, à la mort de son mari, est allée chercher une petite chienne déjà âgée. On pensait qu'elle avait 12 ou 13 ans, et cette petite pépette, la seule chose qu'elle avait connue depuis sa naissance, c'était une cage. Et tous les, je sais pas, plusieurs fois dans l'année, on forçait des fécondations. Elle mettait au monde des petits qu'on lui enlevait et ça recommençait. Et la dernière fois, ça s'est mal passé, elle a eu une césarienne. Et donc les gens qui lui faisaient mener cette vie horrible, eh bien, l'ont déposée dans un refuge. Alors c'est déjà bien, ils auraient pu l'abandonner dans une forêt. Au moins, ils sont allés la déposer dans un refuge. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée dans la vie de Muguette et qu'elle vit auprès d'elle des jours merveilleux. Petite bête qui n'avait jamais connu autre chose qu'une cage et des bébés qu'on lui enlevait. Et j'ai lu récemment... que là encore, la France est un pays où on continue, vous le savez, d'expérimenter toutes sortes de produits sur les animaux, et que des chiens ne sont mis au monde que pour ça, que pour servir de terreau d'expérimentation. Ce sont des dizaines de milliers de chiens, on les envoie aussi en Allemagne, et ça c'est monstrueux. L'animal n'est pas un objet, l'animal n'est pas là pour satisfaire nos besoins, pour que nous nous défoulions sur eux, pour que nous les abandonnions à la première occasion. L'animal est un être humain doté d'une sensibilité. L'homme n'est pas ce dieu vivant qui coiffe justement toute la pyramide du vivant. L'homme est un être qui n'est pas supérieur, qui a égalité avec tout le vivant, qu'il soit animal, végétal. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra absolument pas sortir de la dégradation, des dégradations qu'on inflige à la Terre. jour après jour. Tant que l'homme voudra, en fait, se sauver lui, au lieu de réfléchir à la terre pour elle-même, eh bien, il va courir à sa perte. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Il doit être maintenant, il est 5h44, la maison dort, heureusement, c'est une bonne chose. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écrirez. Et encore une nouvelle fois, une très très bonne rentrée à tous vos enfants ou petits-enfants. Et je vous dis à la semaine prochaine.